tous. Merci pour votre accueil. C'est une joie de me retrouver avec vous. Alors, je suis peut-être pas aussi mignon que le petit colibri, mais je vais essayer de faire ma part. Voilà, le micro capte bien. Un peu plus fort. Moi aussi, je vais essayer de forcer. Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Notre Père, ta fidélité s'est manifestée depuis bien longtemps dans ton Église. Elle se manifeste encore aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir être présents ce matin, d'avoir ce privilège de pouvoir nous mettre à ton écoute. Aussi, Seigneur, que ta parole nous éclaire. Nous avons besoin de ton aide. Nous te la réclamons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le texte sur lequel je m'arrête se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Et le voici, il est sous vos yeux. Que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que l'homme fort ne se vante pas de sa force, que le riche ne se vante pas de sa richesse. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ceci, d'être assez malin pour me connaître, moi, le Seigneur, qui met en œuvre la bonté fidèle, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qu'il me plaît. Oracle du Seigneur. Vous avez tous entendu parler du prophète Jérémie, un prophète qui a passé la plus grande partie de son mandat prophétique à dénoncer les fautes, les mensonges et même les crimes du peuple de Dieu. Alors pour n'avoir pas écouté ces avertissements, beaucoup ont connu l'invasion et la désolation, puisque en 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem a été envahie par les armées assyriennes, détruites, le temple a été rasé, et nombre de ses habitants ont été tués ou déportés. Le chapitre 9, sur lequel je me suis arrêté, ce chapitre fait partie d'un ensemble d'avertissements avant ces événements dont je viens de parler, avertissements destinés à dissuader le peuple de persévérer sur sa mauvaise voie. Appelé à la repentance, ruiner les illusions du peuple, c'était le travail de Jérémie. Une chose pas si facile que ça. J'ai choisi une version de la Bible qui traduit peut-être un peu mieux le caractère provocateur des paroles du prophète, avec l'emploi du verbe « se vanter », avec aussi le verbe, la qualité d'être malin plutôt qu'intelligent. C'est sans doute dans l'intention de Jérémie de dénoncer cette vanité d'une confiance mal placée. Parce que non seulement les contemporains de Jérémie mettaient leurs espoirs dans des choses vaines, mais encore ils en étaient fiers. On peut dire, ils s'en vantaient. Il me semble que ce verbe est plutôt bien choisi. Alors, que veut dire Jérémie dans ces deux versets? Et je commencerai par les illusions qu'il signale. Et c'est assez facile de le repérer. Je trouve qu'il y a trois méthodes pour se donner l'illusion d'échapper au jugement de Dieu. Un jugement qui, comme je disais, correspond selon le contexte, à l'invasion des Assyriens. Alors, première illusion, le recours à la sagesse. Certes, la Bible ne décourage pas la sagesse. Comme vous le savez, le livre des Proverbes nous fait un vibrant éloge de cette sagesse. Mais la différence tient en un seul mot. Jérémie ne parle pas de la sagesse en général, mais de la sagesse de ceux qui se vantent. Que le sage ne se vante pas de sa sagesse. C'est pas n'importe quelle sagesse. Une sagesse qui ne tient pas compte de ce que Dieu peut donner, mais de ce que chacun pouvait tirer du fond de soi. Alors s'il y a du bon dans cette sagesse, puisque tout vient de Dieu, eh bien il y a aussi des carences importantes, notamment la relation avec celui qui a toute la sagesse. Se vanter de sa propre sagesse, eh bien, c'est finalement refuser celle d'en haut et estimer en avoir suffisamment. Les sages d'Israël, les conseillers de la classe dirigeante, étaient tentés de faire alliance avec l'Égypte afin de faire face à la menace assyrienne. Cela a été une illusion funeste, puisque cette alliance faite qu'ils ont faite avec l'Égypte ne leur a rapporté que des déboires. Justement, on le trouve un peu plus loin dans le livre de Jérémie, la sagesse de Dieu à ce moment-là indiquait un autre choix que celui-là. Ça marche pas. Bon, ça fait rien. Le recours à la force. Deuxième illusion. Voilà quelque chose qui pourrait s'accorder avec le bon sens commun. Et on dit bien que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Les Israélites pensaient résister grâce justement à l'armée égyptienne, qu'ils estimaient être la plus forte. Mais c'est souvent le même problème, parce que la force du plus fort peut se trouver faible face à la force de celui qui est encore au plus fort. Et des encore plus forts, on en trouve toujours. Quant aux richesses, troisième illusion, si elles permettent d'acheter beaucoup de choses, elles ne peuvent pas tout procurer. Les riches familles de Jérusalem n'ont pas pu acheter leur liberté, et ironie du sort, au moment de la déportation, ceux qui sont restés à Jérusalem, donc qui n'ont pas été déportés, c'était justement les plus pauvres. Des illusions. Mais que veut dire Jérémie, je vais un peu vite là, quand il parle de se vanter, ça veut dire s'attribuer une gloire vaine ou en tout cas illégitime, puisque chacun sait que la gloire ne peut revenir qu'au Seigneur. Là, on est tous d'accord. Mais quand même, le verset 23 semble permettre une glorification légitime. On l'a vu, si quelqu'un veut se vanter, il y a une possibilité. Alors, au risque de bouleverser ce que nous avons souvent entendu dire, celui qui veut se glorifier, ben, il peut le faire quand même. Et le mode d'emploi est donné. Se vanter, oui, mais avec une différence. être assez malin pour me connaître, moi, le Seigneur. La sagesse, donc la vraie, par opposition à l'exercice solitaire d'une raison autonome, c'est ce qui permet de bien utiliser ses capacités, d'être assez malin ou d'avoir l'intelligence de, hein, appliquer son intelligence à connaître, être assez malin pour me connaître. Vous le savez, dans la Bible, ce verbe connaître exprime un lien étroit, une relation intime, une relation par laquelle la force du Seigneur, sa bienveillance, sa sagesse et ses richesses nous sont accessibles. Nous sommes suffisamment près de lui. Et c'est ce que veut dire ce verbe connaître dans la Bible. Mais alors, est-ce que celui qui connaît le Seigneur peut légitimement se glorifier lui-même? Alors bien sûr, dans la bouche du prophète, se vanter, ce n'est pas fanfaronner. Jérémie emploie ce verbe sans doute pour la symétrie de deux attitudes qu'il oppose. Il y a se vanter de ses propres ressources ou se vanter de connaître Dieu. Ceci dit, donc, à défaut de pouvoir fanfaronner, je trouve qu'il y a, et il faut le trouver, je crois, qu'il y a de quoi être fier, d'avoir une certaine fierté. Parce que c'est bien de Dieu que nous tenons notre véritable dignité, notre véritable identité. C'est quelque chose qu'il nous donne. C'est à nous. Nous sommes enfants du roi. Et en soi, un sujet de fierté n'est pas chose mauvaise. Nous avons besoin de cette dignité que Dieu nous donne. C'est dans notre nature humaine d'avoir ce besoin. L'apôtre Paul, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, qui émet lui aussi cette même exhortation à se glorifier dans le Seigneur. Une fierté, sans doute, à conjuguer avec de l'humilité, mais une fierté tout de même. Alors, je retiendrai, pour aller un peu plus loin, cet encouragement pour ceux qui se sentent faibles, qui pensent peut-être ne pas avoir beaucoup de sagesse, qui ont peut-être peu de capacité, peu de force, peu d'argent pour asseoir leur dignité ou leur fierté. Et je crois pouvoir leur dire que, bien, ils ont un avantage réel, cela. Un avantage qui consiste à ceux qui ne sont pas tentés de vouloir tout résoudre par ce qu'ils ont, par leur force, par leur raison, par leur bien. Leur avantage, c'est d'avoir quelques obstacles en moins pour se confier en Dieu. Une manière d'être plus malin. À condition, toutefois, qu'ils ne rêvent pas avec jalousie de ce qu'ils n'ont pas. Parce que ça, c'est d'autres obstacles. Ou encore aussi à condition qu'ils ne s'enorgueillissent pas de leur propre foi, de leur propre force spirituelle, en ignorant tout le reste. Ça devient de la vantardise vaine. Et ça donne quelquefois une fausse image, une humilité, une fausse humilité qui finalement ne trompe pas grand monde. À l'inverse, pour les autres qui se sentent forts, eh bien, il y a le piège de la facilité, penser avoir réponse à tout, pouvoir résoudre tous les problèmes, être capable d'exceller dans un savoir-faire, même quelquefois imaginer pouvoir tout acheter. Alors, De quoi sommes-nous fiers? Autrement dit, qu'est-ce qui compte le plus dans notre vie? Et qui va forcément transparaître dans nos actes et nos paroles? Et bien sûr, dans nos choix. En d'autres mots, sur quoi voulons-nous fonder notre être, notre identité, notre dignité? Et pas simplement aux yeux des autres, mais à nos propres yeux. Je pourrais tout à fait m'arrêter là sur cette question importante. Dans quoi avons-nous investi pour notre vie? Quelle est la grande réussite de notre vie? Est-ce que c'est notre carrière, nos relations, nos diplômes, nos affaires? J'ajouterai aussi, est-ce que c'est notre lien au Christ? C'est aussi une option. Je pourrais m'arrêter là. Mais je vais quand même continuer. J'ai encore un peu de temps. Je terminerai sur la dimension éthique indissociable d'une telle fierté. Connaître le Seigneur, c'est-à-dire être lié à celui qui se dit notre Père, compter sur sa bonté fidèle, son droit, sa justice, eh bien, celui qui compte là-dessus ne peut pas se dispenser de vivre selon ses mêmes valeurs. Dieu exerce sa bonté fidèle, il se révèle ici comme celui qui aime les habitants de la terre, qui reste fidèle à ses alliances. Alors connaître ce Dieu, ne peut que nous associer à cet amour fidèle, à sa bienveillance. Dieu exerce le droit et la justice, ce qui veut dire qu'il est préoccupé par les droits de chacun, par la dignité qu'il a donnée à chacun, nous bien sûr, mais aussi tous les autres. Et à bien y regarder, la loi de l'Ancien Testament, même si on peut parfois la trouver sévère, elle témoigne de cette préoccupation. Alors connaître Dieu ne peut que nous pousser à respecter le droit des autres. Dans l'Ancien Testament, il est parlé des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers auxquels il faut prendre garde. Connaître ce Dieu ne peut que nous pousser à rechercher sa volonté en suivant ces pistes-là, quitte parfois même à ce que cette volonté nous gêne quelquefois. Il y a un verset qui n'a rien à voir, en tout cas directement avec le livre de Jérémie, mais que vous connaissez tous, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Eh bien, c'est là notre fierté que de rechercher cela. Et vous connaissez la suite, toute chose vous sera donnée en plus. Alors, bon courage, que le Seigneur vous bénisse. Amen.